C'était une danse de Croatie. Nous serons accompagnés surtout de musique traditionnelle. Il n'est pas très évident de trouver de la musique qui provient de l'ex-Yougoslavie autre que la musique traditionnelle, mais je pense que ça nous donne une image d'un aspect culturel de ce pays et de ses diversités. Rina, avec les réfugiés, il y a certaines régions qui vivent particulièrement ce que tu viens de nous expliquer, c'est-à-dire ces déplacements de population.
Oui, j'en étais au Voïvodine, justement, qui est la région dans laquelle nous avions fait notre rencontre. Cette quatrième rencontre internationale Femmes en Noir a eu lieu dans le Voïvodine, qui est une région qui se trouve au nord de Belgrade, jusqu'à la Hongrie. Et cette région est une région relativement riche et paysanne. Et bien entendu, il y a plein de réfugiés qui veulent aller vivre là-bas. Et ça crée beaucoup de tensions, parce qu'ils essayent de s'approprier par la force les maisons des gens faisant partie de la minorité hongroise, par exemple, qui sont catholiques en général et pas orthodoxes, ou bien les maisons de Croates en leur disant ben « alors tant qu'à faire, nous on s'est fait chasser, alors vous rentrez chez vous ». Et l'armée et la police est là, soi-disant, pour empêcher ce genre de choses de se passer, parce que bien sûr c'est parfaitement illégal, mais en fait, il y a des belles bousculades, des gens qui se font foutre dehors de chez eux, et des bousculades pour rentrer en premier dans la maison. Celui qui rentre en premier dans la maison sera le propriétaire de la maison. Donc il y a souvent 4-5 bonhommes qui se bagarrent devant une maison pour être le premier à passer l'épaule pour devenir le propriétaire de cette maison. Donc il y a des tensions très importantes dont les victimes sont toujours les minoritaires. Ceci dit, je ne voudrais quand même pas mettre tout le monde à égalité. Je pense quand même que ceux qui en prennent le plus dans la gueule en ce moment, ça reste les bosniaques. Incomparablement. Ouais, je crois que la violence qu'ils subissent, la purification dite ethnique faite par les Serbes est beaucoup plus violente et beaucoup plus systématique que celle faite par les Croates, qui ne sont pas des anges non plus, on s'entend bien. Mais enfin, les massacres massifs de jeunes gens, séparer les jeunes des vieux et tuer tous les jeunes, les viols massifs, etc., ça c'est quand même des actions typiques des nationalistes serbes.
Alors, les femmes en noir de Belgrade soutiennent, par exemple, certains projets qui sont liés aux camps de réfugiés, constatant, entre autres, par exemple, que les femmes qui doivent vivre dans ces camps de réfugiés, on leur donne à manger, on leur donne un toit, mais finalement, elles sont là, parquées, c'est peut-être un mot dur, mais je crois que c'est quand même la réalité, toute la journée avec leurs enfants et avec ce qu'elles ont dans la tête d'horreur et de mort. Si on ne les laisse pas, on ne les stimule pas à revivre autre chose, elles s'enfoncent petit à petit toujours plus. Et on sait que la folie est sûrement une des choses qui peut guetter ces femmes-là. Alors, les femmes en noir, au contraire, ont décidé de provoquer d'autres histoires dans ces camps pour essayer de proposer autre chose.
Alors, la spécificité du travail qu'elles font ou que font, par exemple, les femmes du Center for Women Victims of War Violence à Zagreb, c'est d'essayer de visiter les femmes dans ces camps et de les aider à pouvoir partager leurs expériences, vivre une espèce de groupe de parole pour pouvoir exprimer ce qu'on a ressenti et dépasser la culpabilité que souvent les victimes ressentent suite à des atrocités de ce genre, et leur permettre de retrouver une certaine confiance en elles, une certaine fierté d'exister et une certaine identité. Donc, elles les aident,
voilà, suppose aussi.
À écrire leur histoire, à écrire une poésie sur leur histoire ou à dessiner quelque chose sur leur histoire. Elles leur font une sorte de carte d'identité avec ce qu'elles ont recueilli de leur histoire. Elles essaient de les aider à retrouver une certaine confiance et puis par la suite également aussi à se rendre utile ou à réapprendre une nouvelle profession pour pouvoir éventuellement monnayer une nouvelle activité pour pouvoir se relancer dans la vie. Donc c'est une forme d'aide qui est différente que celle que les grandes associations caritatives peuvent fournir sur place. Elles ne sont pas très bien reçues quand elles vont dans les camps.
Ah non?
Les autorités n'aiment pas tellement les voir arriver et leur posent chaque fois des conditions. Vous devez venir avec un camion de patates, vous devez venir avec du raisin.
Pour essayer de les empêcher craint quoi de telles actions ?
Qu'elles viennent politiser les femmes dans les camps.
Et quand on politise à la paix et au respect des différences, c'est une menace.
Il y a aussi beaucoup de tensions dans les camps pour des raisons politiques. C'est évident que les réfugiés musulmanes dans les camps en Serbie sont en très mauvaise posture. Alors que celles qui sont d'origine serbe sont en bien meilleure posture et obtiennent plus de soutien. Donc on a des toutes jeunes qui nous ont raconté ça pendant la rencontre, c'était assez touchant. Il y a une jeune fille qui s'est mise à sympathiser avec un jeune homme musulman et on est bien vite venu lui faire des remarques. Il fallait qu'elle arrête de sympathiser avec ce jeune homme. Ou bien on vient et on leur dit qu'elles ne doivent pas se maquiller et se faire belle. Parce qu'après tout, elles sont réfugiées, elles n'ont pas le droit de se faire belle. Donc il y a toutes sortes de tensions et de difficultés pour lesquels je pense que ce genre de groupe peut peut-être mieux répondre à leurs besoins. Et je crois que ces groupes sont en train d'inventer des nouvelles techniques. Et il y a une recherche qui est en train de se faire au niveau mondial en ce moment pour mieux soigner et mieux recevoir des victimes de violences de guerre, de manière à ce qu'ils ne transmettent pas aux générations futures une dose de haine incalculable qui, immanquablement, 40 ans plus tard, fait repartir un conflit. Et je crois que si on avait fait ça mieux après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien peut-être on n'aurait pas vu cette génération s'appeler de nouveau tchétnique et comme à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, et à repartir encore une fois sur les chemins de la guerre.
Alors nous parlerons bien sûr dans ce sens-là du projet de Medica, parce qu'il y a beaucoup à voir avec ce sujet, mais je crois qu'il est temps, Orina, que tu nous racontes la rencontre d'août 95, qui s'est retrouvée. Donc, je m'excuse, j'ai oublié le nom du village où vous êtes retrouvés, donc près de la...
Tresnedjevac.
Voilà, comme tu dis, ça avec un si joli accent. Et qui s'est retrouvé là et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'attendent les femmes à la fois d'ex-Yougoslavie quand elles appellent à être rejointes par les femmes qui les soutiennent ailleurs dans le monde et que viennent chercher les femmes qui viennent d'ailleurs dans le monde?
Bah, d'abord, il faut y arriver à cette rencontre, ce qui n'est pas peu de choses, parce qu'il faut obtenir son visa. Alors, il y a par exemple une bonne quarantaine de femmes espagnoles qui n'ont jamais obtenu leur visa. Parce que les consulats ont bien compris que c'était femme en noir et ils ont bien vu avec les dates que ça collait avec les dates de la rencontre, donc ils ne leur ont pas donné de visa. Alors, ce que les femmes de
femme en noir... On craint les brigades internationales.
Ce que les femmes en noir font maintenant très malin, c'est que donc, il faut toujours que quelqu'un vous invite depuis le pays d'origine, n'est-ce pas? Donc, alors, ce qu'elles font, c'est qu'elles envoient une invitation par un homme. Comme ça ne fait pas femme en noir. Mais alors, il faut bien apprendre le nom de la personne par cœur. Il faut savoir où il habite, il faut savoir son téléphone pour pouvoir réciter tout ça spontanément quand on voit l'officier. Mmh. Et si on loupe, si on rate le coche, et l'autre, ça peut
attirer
l'attention et craque en se faire refuser le visa. Bon, alors il y a déjà toutes celles qui se sont fait refuser le visa. Et le mouvement espagnol, c'est un mouvement qui soutient très très fort les femmes en ex-Yougoslavie. Après, il y a les Italiennes. Elles sont arrivées en bus. Et c'est la dernière fois qu'elles le feront, elles ne le feront plus jamais. Pourtant, c'était une riche idée. Elles venaient en bus, elles passaient par la Croatie, elles prenaient les femmes croates qui ne peuvent pas passer directement. Donc l'autoroute Zagreb-Belgrade, elle est coupée depuis fort longtemps. Donc qui ressortaient par l'Autriche et re-rentraient par la Hongrie. Elles arrivent là, à la frontière, avec leur bus chargé de matériel, de tampax, de fruits et légumes et de tracts. Et crac, elles se sont fait bloquer. Donc elles ont passé 3 jours à la frontière. Elles ont obtenu 4 visas qui, chaque fois, ont été cancelled, annulés. Elles n'arrêtaient pas sur la navette entre la frontière hongroise et la frontière serbe. Et vraiment, ils avaient compris que ce n'était pas une chorale ou une promenade du dimanche. Hein. Donc, c'était trop flagrant. Qu'est-ce qu'elles étaient, 15 italiennes et 7 croates, c'était trop flagrant. Ce qui fait que finalement, il y a 5 femmes de Belgrade qui sont montées à la frontière, qui ont réussi à faire passer les 5 croates, les 7 croates à pied, et puis les mettre dans le train. Et après, c'est elles qui se sont fait arrêter. Ça a énervé les douaniers et ils ont arrêté les 5 responsables, ce qui fait pendant une journée, on ne les avait pas. Donc, il y a déjà des tensions pour y arriver. Hein. C'est déjà pas rien d'y arriver. Alors, une fois qu'on y arrive, on est très, très content. On se retrouve entassé dans un minuscule appartement à Belgrade, l'appartement de femmes en noir. Et puis, on attend le bus avec impatience et on part toutes pour ce petit bled à Tresnedjevac, qui est donc dans le Voïvodine, où nous recevait des gens de la minorité hongroise catholique qui, eux, avaient subi des pressions pas possibles pour ne pas nous recevoir. On leur avait promis les pires misères s'ils nous recevaient. On devait avoir des tentes, des scouts. Les scouts avaient subi des pressions. Ils ne nous ont pas donné les tentes. Donc, le pauvre homme qui nous recevait, qui avait fait 4 mois de tôle pour refus de servir, était mort de trouille parce qu'il disait « Mais mon Dieu, 200 femmes, mais je vais les loger où ?» Il nous a dit qu'il s'était senti encore plus mal que quand il avait fait ses 4 mois de tôle. À l'idée de voir toutes ces femmes qui descendaient de ce bus, peut-être dire « Mais mon Dieu, mais où je vais les loger ?» Alors on était finalement 160 pour 3 douches, non, 1 douche et 3 toilettes. Je ne vous dis pas l'histoire. C'était, je ne sais pas comment on s'est débrouillé, les gens étaient charmants, ils étaient vraiment sympas comme tout, et tout a roulé comme sur des roulettes. On dormait sous tente, les unes sur les autres, n'importe comment. Mais c'était fantastique et les gens étaient ultra accueillants. Et en effet, ces gens, c'est quelque part des opposants à la guerre aussi. Et le fait de nous recevoir, c'est déjà un acte, il se démarque par rapport aux autorités énormément en recevant une conférence de ce genre.
Et puis alors, qu'est-ce qu'on y discute ? Alors, justement, Rina, donc une fois qu'on est là, qu'on a passé une nuit sous tente, que tout le monde est arrivé, finalement, quelles sont les attentes des unes et des autres ? Est-ce qu'il y a d'abord, comme tu le disais tout à l'heure, cette envie d'échanger d'abord des femmes yougoslaves, de dire il faut que vous sachiez que c'est comme ça que ça se passe ici?
Alors ça commence par, on s'asseye tout en rond et puis on se présente chacune. Alors ça, je peux vous dire, ça prend déjà plus qu'une demi-journée parce que chacune raconte de quel groupe elle vient et qu'est-ce qu'elle fait. C'est déjà très très long, mais c'est très touchant, donc c'est dommage de louper ce moment-là. Et puis ensuite, il y a des groupes de travail, donc on va se subdiviser en groupes de travail. Il y a des discussions, certaines qui sont plus des discussions de partage de ce qu'on a vécu. Par exemple, ma réalité dans la guerre, ou bien ma forme de résistance à la guerre, donc des groupes plus d'échanges. Et puis il y a d'autres groupes qui sont plus de réflexion, femmes et militarisme, lesbianisme et mouvement de la paix, violence structurelle et espoir des activistes. Enfin, différentes discussions sur, en partie, théorisation pour mieux comprendre le lien qu'il y a entre nationalisme, guerre, rôle de la femme dans le nationalisme, etc. Et d'autres groupes plus sur comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut, ouais, quelles vont être nos stratégies pour l'année prochaine, comment on va tenir le coup.
Parce que derrière tous ces thèmes, il y a quelle nécessité exprimée par les unes et par les autres? Les femmes yougoslaves, elles attendent quoi d'une rencontre comme celle-ci?
Elles attendent d'une part de pouvoir raconter ce qu'elles ont vécu, raconter les pressions qu'elles subissent, écouter comment les autres se débrouillent, donc obtenir un certain soutien de la part des autres, de la part des autres de l'ex-Yougoslavie, mais aussi de la part des autres de l'extérieur. Donc il y a des espèces de jumelages qui se font entre des groupes de petites villes avec un groupe d'une ville à l'extérieur pour obtenir des médicaments, pour obtenir un soutien très concret. Hein. Ce soutien de l'extérieur a énormément d'importance parce qu'elles subissent quand même la répression. Donc si elles ont des contacts avec l'extérieur, elles ont plus de chances de rester hors de tôle, ce qui est quand même appréciable. Et puis, peut-être aussi de dépasser un petit peu sa problématique locale. Ça veut dire de ne pas rester complètement suffoquée sous la cloche de la haine qu'il y a localement et puis essayer de quand même de surnager un petit peu au-dessus et de réfléchir à la signification du nationalisme, du sexisme, de la différence de genre, enfin, de la non-violence, comment on peut organiser une action non-violente, enfin, d'essayer de sortir un petit peu de sa réalité immédiate.
Et alors, par contre, les femmes qui viennent des autres groupes de femmes en noir, d'ailleurs dans le monde, est-ce qu'elles viennent puiser dans la ressource des témoignages de ces femmes l'énergie de continuer ce qu'elles font dans leur propre pays ou qu'est-ce qu'elles
oui.
attendent?
Bon, elles viennent avec une certaine culpabilité des fois. J'étais quand même assez remarquée de voir qu'il y avait pas mal de juives et pas mal d'allemandes et que dans les propos, il y avait quand même une certaine culpabilité par rapport ou une certaine identification de victime par rapport à l'autre victime, par rapport à notre propre passé. Donc on avait quand même, parmi beaucoup des participantes de l'extérieur, une certaine dose de souffrance par rapport à son propre passé, mmh. et donc une identification ou un lien avec ce qui se passe là. Et puis aussi, bien sûr, un désir de voir ce qui se passe, de voir comment les autres se débrouillent, et puis de se recharger un peu les batteries pour une nouvelle année. Bon, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours rigolo, ces protestations dans la rue, qu'on n'a pas toujours de la facilité à y trouver du sens. Donc je pense que pour nous aussi, c'est une stimulation extrêmement importante de voir qu'est-ce qui se passe localement, comment elles se débrouillent, et puis qu'est-ce qui les pousse en avant. Hein.
Parce qu'effectivement, peut-être c'est même... Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, peut-être, mais quelque part, on peut se dire que c'est plus difficile pour les femmes en noir, loin de l'ex-Yougoslavie, de trouver l'énergie parce qu'il n'y a pas l'urgence du quotidien qui les pousse à résister. Quoi.
Elles vivent dans l'urgence du matin au soir. C'est tout le temps l'urgence, il y a tout le temps des appels au téléphone qui sont très mobilisants, qui sont des personnes physiquement qui viennent dans le local, qui ont des besoins très, très concrets. Donc elles vivent absolument tout le temps dans l'urgence, 24 heures sur 24, elles turbinent au café, à la cigarette. Elles ont quand même un petit peu d'argent parce qu'elles ont du soutien de l'extérieur, donc elles arrivent à acheter quelques denrées au marché noir et puis elles arrivent même à charger un camion en pernier du matos dans un camp de réfugiés, mais elles vivent sur l'urgence 24 heures sur 24 depuis 4 ans. Il faut être jeune en bonne santé pour supporter ça, je vous assure.
Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Et Radio Zone vous propose le samedi 4 novembre prochain une fête de soutien. Notre radio a besoin de votre soutien. Elle existe par ses auditeurs et auditrices qui veulent bien soutenir son action de radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas ou peu souvent en tout cas. Donc samedi 4 novembre de 20h à 2h du matin à la salle du Faubourg à Genève, 8 rue Terreau du Temple. Une fête tropical avec Alejandro et ses musiciens, musiciens tropicaux bien sûr aussi. L'organisation, c'est les Amis de Radio Zone, Terre Réfractaire et la radio bien sûr. Alors je vous le répète, samedi 4 novembre, fête de soutien à Radio Zone de 20h à 2h à la salle du Faubourg à Genève. Et aujourd'hui, dans Remue Ménage, nous rencontrons Rina Nissim et Claire Sanière qui parlent pour nous de l'action des femmes en noir en ex-Yougoslavie et en Europe, dans le monde et à Genève en particulier. Et Rina, tout de suite, nous raconte la suite de ce qui s'est passé en Voïvodine lors de la quatrième rencontre des groupes de femmes en noir dans le monde au mois d'août dernier. Alors Rina, j'aimerais, si c'est possible, que tu nous fasses un petit peu partager ces histoires qu'ont racontées les femmes lors de cette rencontre, parce que je crois que par le biais des récits, des témoignages, c'est comme ça qu'on se rend le mieux compte aussi, nous, ici, de ce qui peut, de l'échange que vous avez pu avoir dans cette rencontre.
Alors, par exemple, à cette rencontre, parmi les témoignages qui m'ont le plus touchée, il y avait celui d'une femme qui s'appelle Igo et qui vient du Kosovo, et dont son groupe, je ne sais pas si je prononcerai ça correctement, mais s'appelle Motrat Kiriazi. Alors c'est un groupe de femmes en zone rurale qui essaye d'aider les femmes à s'organiser, une chose qui est très difficile en ce moment au Kosovo parce que vous savez sans doute que l'occupant serbe a pratiquement tout annulé. Donc il n'y a plus de télévision, il n'y a plus de radio, ils n'ont plus le droit d'avoir leur école, ils n'ont plus le droit d'avoir leur centre de santé, donc ils sont pratiquement privés de tout droit humain. Et pour le moment, ils tiennent toujours dans une réaction non violente, mais comme elle décrivait, ils sont un petit peu à la limite de supportable et les provocations sont telles que ça devient vraiment très très difficile de rester dans cette attitude non violente. Elle racontait par exemple que ne sachant pas de quoi vivre, ben, on mobilise aussi les enfants et il y avait un gamin qui à l'âge de 12 ans ben, vendait quelques cigarettes dans la rue et il s'est fait casser les dents par un militaire qui l'a renvoyé à la maison lui disant qu'il n'avait pas le droit de faire ça non plus. Alors c'est sûr que dans une ambiance de répression pareille, la situation des femmes, elles vivent également un recul par rapport au peu qu'elles avaient réussi à obtenir au niveau de l'éducation ou de la chance de promotion au niveau professionnel.
Qu'elles avaient obtenu sous le régime de Tito,
oui,
par exemple.
Oui, ça évoluait quand même, disons. Igo, par exemple, est éduquée, elle parle une autre langue, enfin elle parle même deux autres langues que sa langue, donc... les filles allaient à l'école, elles recevaient une certaine éducation et donc elles pouvaient aussi devenir des facteurs de changements sociaux pour leur propre population, chose qui en ce moment est en plein recul puisque même l'éducation n'est plus possible. Ça m'a fait beaucoup penser à la situation des Palestiniens et des Palestiniennes parce qu'en période d'occupation, quand on arrête l'école, bah, ça fait toute une génération qui ne sait plus lire, qui ne sait plus écrire et qui ne sait plus compter. Et c'est une génération de fichus, je veux dire, par rapport à ses chances de grandir. C'est une génération qui ne pensera que à lancer des cailloux. Mmh. Donc ça, j'ai vu beaucoup de similitudes par rapport à la situation des Kosovars et celle
des
Palestiniens sous occupation. Mmh. Alors ça, c'était un témoignage très fort et c'était aussi une rencontre très forte entre elle et les femmes qui étaient venues avec elle. Et puis, les femmes qui les accueillaient, qui sont quand même... qui parle la langue des Serbes, n'est-ce pas? Donc c'est quand même très très fort comme rencontre de pouvoir se parler par-dessus nos appartenances et puis de trouver un langage en commun et puis de trouver du soutien en l'autre. C'est quand même quelque chose de très très émouvant de voir ces rencontres entre ces femmes et de voir l'Albanaise, enfin la femme du Kosovo, faire l'effort de parler la langue de l'autre pour pouvoir échanger avec elle.
Ça, effectivement, ça doit demander une dose de compréhension et d'avoir des objectifs qui dépassent justement cet affrontement. Quoi.
Et puis un autre des témoignages qui m'a beaucoup touchée, c'était celui de Margarita, qui est réfugiée croate d'origine hongroise, qui venait d'un minuscule bled qui s'appelait Rika, et qui était là donc réfugiée avec son fils et avec son beau-fils, qui tous les deux ont été enlevés de force en juin 1995 par l'armée serbe, probablement pour la mobilisation de la guerre du Krajina. Alors, il faut quand même savoir une chose qui n'est pas banale, c'est que dans les camps de réfugiés, la Croix-Rouge serbe enregistre les noms de tous les réfugiés avec les dates de naissance et les remettent à l'armée. Ce qui fait que l'armée vient et en toute simplicité mobilise, se sert et embarque donc, des jeunes. Donc, on peut appeler ça une mobilisation forcée parce qu'ils étaient contre, ils ne voulaient pas y aller. Et elle a fait des pieds et des mains, elle a écrit des lettres dans le monde entier, à l'ONU, ici et là, pour protester contre l'enlèvement de son fils et de son beau-fils. On ne lui a bien sûr jamais donné de réponse sur où avaient disparu ces jeunes. On lui a répondu, écoutez, nous, on n'a rien à voir avec ça. En fait, ils ont rejoint volontairement les forces nationalistes serbes, probablement qu'ils voulaient regagner le village qu'il avait perdu. Hein, c'est un petit peu comme ça qu'on essayait de lui répondre. Elle savait très bien que ces jeunes gens avaient été mobilisés de force. Et c'est peut-être une raison pour laquelle ils ont pris une telle baffe là, récemment sur le Krajina, parce que si c'est vrai qu'une grosse partie de leur force avait été mobilisée de cette manière, vous imaginez bien qu'ils ne devaient pas avoir une volonté de se battre. Donc... plus récemment, elle a même fait une grève de la faim, cette femme, pour essayer d'avoir des nouvelles de son fils. Et bien sûr, on lui a jamais répondu. Et puis plus récemment, elle est retournée dans le village où elle était réfugiée pour essayer de voir si par hasard l'un ou l'autre allait revenir vivant. Et jusqu'à présent, j'ai malheureusement pas eu de nouvelles. Mais c'est quand même assez fort de voir comment ils s'y prennent et de voir dans quel ils laissent ces réfugiés dans un statut extrêmement fragile, avec un lendemain extrêmement peu clair. Leur statut doit être renouvelé de 15 jours en 15 jours. Hein. Donc, ils ne savent jamais s'ils vont pouvoir rester dans ce camp, s'ils vont devoir quitter ce camp. Ils sont toujours dans une situation d'être considérés comme citoyens de second rang. Et ils se font manipuler. En fait, les Serbes utilisent le nombre de réfugiés qu'ils ont pour justifier leur guerre à eux, en disant, voilà, tous ces gens ont fui tout loin de chez eux, donc ça justifie que nous nous battions pour eux. Et ils leur sont utiles tant qu'ils témoignent dans le sens qu'ils veulent. Mais par contre, il y a un moment, ils deviennent embarrassants, parce que s'ils vont dire à des journalistes que non, qu'eux, en fait, ils n'ont qu'une envie, c'est de vivre en convivialité avec leurs voisins croates et bosniaques, ben, tout d'un coup, ça ne les sert plus. Les Serbes, hein, parce que c'est évident que beaucoup de ces réfugiés ne sont pas acquis à l'idéologie nationaliste pour autant, quand bien même ils auraient, c'est ça qui est assez touchant donc, quand on entend ces gens témoigner, quand bien même ils auraient vécu eux-mêmes des violences, où ils auraient éventuellement perdu peut-être une partie de leur famille, où ils auraient quitté un lieu où ils se sentaient bien, ben, ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont entrés dans cette logique de haine et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de tuer l'autre. Au contraire, tous ceux que j'ai rencontrés continuent à en fait préférer une vie pluriethnique, conviviale, entre les différentes communautés.
À ce niveau-là, Rina, toi qui es déjà allée en ex-Yougoslavie, qui a déjà participé à une de ces rencontres, de ce point de vue-là, est-ce que tu as senti quelque chose qui changeait? Est-ce que avec la guerre qui dure, qui s'enlise, où on prend, on se reprend, on reconquiert, enfin vraiment, on se rend les coups à tout bout de champ, est-ce que tout à coup toutes les communautés n'ont pas effectivement pris plus conscience de l'absurdité de cette lutte nationaliste?
C'est possible. Malheureusement, comme je disais avant, c'était une population aussi qui n'était pas très organisée dans la vie civile, et donc je crains qu'ils aient pas forcément la force de créer un mouvement de protestation suffisamment organisé pour que ça arrête vraiment la guerre.
Et quand tu dis, ils craignent, quand par exemple les réfugiés se mettent à dire à la presse, ça arrive, ce genre de choses. Et même un geste aussi, entre guillemets, qui paraît simple, qui ne nécessite pas une grande organisation, du courage pour affirmer une idée, est-ce que ça arrive?
Oui, ça arrive, je pense, oui, tout à fait. Mais je ne pense pas que ce soit suffisant à ce stade des affaires pour réellement arrêter... la partie nationaliste qui, elle, est fortement engagée et qui a toujours envie d'aller de l'avant. Mais c'est en effet quand même très touchant d'entendre... par exemple, il y a une dame de Sarajevo qui était radiologue, qui était donc non musulmane, hein, famille mixte elle-même, donc mariage mixte, et elle travaillait comme radiologue pour l'hôpital de Sarajevo. Elle habitait tout près de là. Chaque jour, elle avait peur d'aller au travail, elle avait peur que de se faire abattre dans la rue, sur le chemin, donc elle courait un peu, elle arrivait au boulot. Et puis finalement, bien sûr, ils leur ont coupé les vivres, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus de salaire. Et puis finalement, c'est les pays des Émirats arabes ou de l'Arabie saoudite qui s'est mis à payer les salaires de cet hôpital. Donc, ils voulaient payer qu'aux musulmans. Donc, ils n'ont pas payé le salaire à elle. Elle a dit, bon, ça ne fait rien, je continue quand même, je resterai. Et elle est restée encore toute une période. Au bout d'un moment, nouvelle directive, toutes les femmes doivent être voilées à l'hôpital. Alors, elle va chez le directeur, elle me dit, mais enfin, quand même, être voilée à l'hôpital, moi, je... vraiment, non. Il se dit, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est les Arabes qui payent, alors c'est comme ça. Et elle a quitté Sarajevo de cette manière. Et pourtant, elle n'a pas de haine.